France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Le labo de l'ESS, ESS, Économie sociale et solidaire, a tenu en 2018 un séminaire sur le thème agriculture et alimentation durable qui a permis d'ouvrir des pistes de travail qui sont toujours consultables sur le site du labo. C'est le labo tradeunioness.org et on vous donne d'ailleurs le lien avec la page agriculture et alimentation durable. Ce chantier de travail est présidé par Dominique Picard, invité de cette édition. Alors il vient aujourd'hui à point puisque le principe d'une agroécologie oriente de plus en plus les nouveaux paysans, comme les anciens, vers des pratiques respectueuses des sols et à destination des consommateurs proches des zones de production.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Dominique Picard, bonjour.
Bonjour.
Dominique, vous êtes président du chantier agriculture et alimentation durable au labo de l'ESS. Et avec nos amis du labo, on s'est dit, il faudrait bien consacrer un petit moment à cette alimentation dite durable, avec un axe agroécologique qui prend de plus en plus de place, de relocalisation de la production alimentaire. Je vois, avant de détailler, j'ai lu le compte-rendu qui est donné sur le site du labo, labo-tradeunioness.org, je rappelle pour l'adresse, où on parle de la place de l'agriculture aujourd'hui au niveau des dégâts climatiques et des dégâts naturels. Exemple, il s'avère que l'agriculture et l'alimentation sont responsables de 36% des émissions de gaz à effet de serre, à savoir plus que les secteurs des transports ou du bâtiment. J'ai peur qu'en partant de cette constatation, on s'accroche à des producteurs qui seraient peut-être prêts à réfléchir à un autre mode de production.
Oui, oui, absolument. En fait, ce qui est important, c'est de voir le lien entre l'alimentation et l'environnement. Mmh. Et c'est pas simplement donc un problème de santé, c'est un problème aussi de défi écologique et environnemental auquel on s'attaque quand on veut parler d'alimentation durable. Donc effectivement, prendre conscience que les activités agricoles et alimentaires, de manière globale, représentent 36% des gaz à effet de serre, c'est prendre en compte effectivement le fait qu'il faut changer son mode d'agriculture et le mode de consommation. C'est les deux. C'est-à-dire, ce qui est important aujourd'hui, c'est de traiter l'ensemble des problèmes en même temps. Et c'est apporter une réponse globale. C'est ça qui est important. Et c'est là où l'ensemble des acteurs, pas simplement les agriculteurs, les producteurs, mais aussi les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs, bien sûr, ont leur rôle à jouer sur cette question.
Ce que je redoute personnellement, c'est que en signalant les abus, on favorise pas l'incitation à la modification de comportement.
Oui, alors c'est tout le problème aujourd'hui. C'est-à-dire, en même temps, il faut alerter et Dieu sait si aujourd'hui on a énormément de signes qui disent qu'on ne peut plus continuer comme ça, donc il faut qu'il y ait une prise de conscience globale qui se passe. Et en même temps, effectivement, il faut encourager la transition agroécologique. Et pour ça, il faut aussi se trouver des moyens de le faire. Mais ça passe d'abord par la prise de conscience, probablement. Et là, les consommateurs, je pense, ont un rôle fondamental aussi pour faire bouger les curseurs. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de voir comment le consommateur, il a un vrai pouvoir, je dirais, décisionnaire et un pouvoir de transformation globale.
Alors, une transformation globale, elle peut intervenir via des ministères, entre autres celui de la transition écologique et de la solidarité. Mais quand on regarde les faits, alors c'est peut-être une idée préconçue, mais on sent quand même que les pouvoirs ont tendance à s'incliner devant ce qu'on appelle les lobbies agricoles.
Alors, en plus, la difficulté, c'est que sur cette question de l'alimentation et de l'agriculture, il y a au moins trois ministères qui sont concernés. Il y a le ministère, évidemment, des Solidarités et de la Santé, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et le ministère, effectivement, des Transitions écologiques et solidaires. Et tous les trois ont des programmes de transformation, d'amélioration de la santé, de l'alimentation, etc. Et pour autant, effectivement, on voit bien que ça n'avance pas aussi vite que ce qu'on pourrait espérer.
Alors ça résiste et ça freine.
Oui.
À quel endroit?
Ça résiste notamment, effectivement, par ceux qui profitent le plus possible des subventions et notamment, par exemple, de la PAC. Sur son pilier 1, qui est vraiment une aide directe aux agriculteurs, c'est une aide à l'hectare. Donc, c'est une incitation à s'agrandir en permanence. Or, on sait qu'aujourd'hui, il faudrait revenir à des proportions sur les territoires qui soient beaucoup plus petites et où il y a une diversité de cultures, ce qui permet quand même une autonomie, une résilience dans les territoires beaucoup plus forte que la monoculture intensive.
On voit poindre, même chez dans un secteur très conventionnel et traditionnel de production agroalimentaire, des modifications, mais qui sont voulues par le contexte. D'abord les changements climatiques, l'exemple encore d'agriculteurs qui ont décidé d'abord de multiplier le type de production, d'aller plutôt vers quelque chose de respectueux de l'environnement et à tendance biologique si possible. Et puis la réalité aussi, aujourd'hui, des métiers de l'agriculture. Ne permettent plus aux producteurs de manger.
Ça, c'est vrai.
Et de vivre décemment.
D'ailleurs, c'est vrai que c'est important aussi de se rendre compte qu'il y a au moins un agriculteur sur quatre aujourd'hui qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a une moyenne de 350 euros par mois. Donc, c'est là où la question de la subvention, effectivement, de la PAC, elle est importante pour les agriculteurs. Mais en même temps, c'est pas normal, je dirais, qu'il n'y ait pas une rémunération au juste prix. C'est quelque chose qu'il faut complètement revoir, c'est-à-dire comment rémunérer les producteurs qui font des produits de qualité à leur juste prix. Pour autant, il faut aussi que les consommateurs puissent acheter ces bons produits aussi à un prix qui leur permettent d'acheter, de fait.
Et ça, on va en parler, effectivement. Dominique Picard, invité des Carnets. Dominique est présidente du chantier agriculture et développement durable et du chantier agriculture et alimentation durable. J'allais faire un lapsus sur développement durable, mais il est concerné, évidemment. Vous avez travaillé aussi sur les financements de projets liés à la transition agroécologique portée, entre autres, par des acteurs de l'ESS. On a très souvent signalé, et on le fait régulièrement dans les carnets de campagne, une relocalisation par la production, qui très souvent offre aussi des postes en insertion, des jardins de cocagne, des AMAP, la campagne qui alimente la ville, formidable. Et finalement, tout ce qui relève de cette partie de production indexée par l'ESS donne des idées aux autres. C'est-à-dire aujourd'hui, des paysans, des agriculteurs se réunissent, créent de nouveaux collectifs, font de la transformation par eux-mêmes, de la vente directe en drive fermier. C'est l'ESS qui a lancé cette nouveauté.
Oui, alors il faut dire que les acteurs de l'ESS sont très présents sur tout l'ensemble de la chaîne alimentaire, de la production effectivement à la consommation. Mais ce qui est important, c'est de voir effectivement l'ensemble des acteurs pour l'acquisition de terres. Je pense à Terre de Liens, je pense à Ferme d'Avenir, mais je pense aussi au niveau de l'installation, les tests agricoles, donc le réseau Reneta, les SIAP, qui sont des coopératives d'installation en agriculture paysanne, en plus sous forme de sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc on voit bien que ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la gouvernance, on est en train de réinventer les choses. Et ça, c'est très important parce que il faut relocaliser les territoires, mais il faut aussi se réapproprier la gouvernance du coup.
Et ça va dépendre de la bonne volonté des collectivités.
Aussi, alors c'est là où il y a effectivement des partenariats très forts avec les collectivités qui, elles aussi, par exemple, pour les terres agricoles, ont un droit de préemption. Il y a plein de villes aujourd'hui qui préemptent aussi pour pouvoir développer de l'agriculture durable, pour faire de l'alimentation responsable, on va dire. Et donc le lien entre les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale d'une manière globale, elle est très importante et elle se traduit d'ailleurs à travers des projets qui sont les projets alimentaires territoriaux, qui ont été d'ailleurs portés par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et les villes, les communes, les intercommunalités, voire les PNR, les parcs naturels régionaux, se saisissent de ces projets, essayent d'apporter des réponses globales. Parce que c'est bien ça, encore une fois, sur la question sur laquelle j'insiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut apporter des réponses systémiques. Et donc, de la production à la consommation, comment ensemble on va faire changer, on va faire bouger les choses pour aller dans ce sens de relocalisation, de circuits courts, de réinstallation de paysans et de consommateurs avisés qui vont faire bouger les choses.
Alors, comment consommateurs avisés, mais vous aviez commencé à en parler, Dominique Picard, c'est l'accès de toute personne à une production et une alimentation saine, durable, locale, de qualité.
Oui. Alors,
ça coûte.
Absolument. Ça, c'est un vrai défi parce qu'il y a toute une partie de population aujourd'hui qui n'a pas accès à ces produits, tout simplement par manque de moyens. Pour autant, ce qui est intéressant, je pense par exemple à un projet qui a été développé pendant 4 ans par le réseau des CIVAM, les regroupements de petits paysans et des populations en difficulté, donc suivies par ATD Carmonde par exemple, ou les CCAS, donc les centres communaux d'action sociale, qui ont développé un projet qui s'appelle Accessible pour travailler en amont et en aval des conditions qui font que en s'organisant à travers des groupements d'achat et en s'adressant directement aux producteurs, elles peuvent se permettre d'acheter des produits de bonne qualité, moins cher, parce qu'on sait très bien qu'effectivement, plus vous avez d'intermédiaires et plus évidemment les prix augmentent. On voit bien que la grande distribution, c'est souvent le petit producteur qui reçoit pas l'équivalent de ce qu'il devrait recevoir normalement au niveau rémunération.
Question difficile à traiter en 30 secondes, Dominique Picard, mais comment financer cette grande transformation ? On parle d'épargne solidaire, de plans d'investissement des particuliers, d'achat de parts sociales et sur certaines entreprises, par exemple, ou dans certains organismes, mais ça ne suffira pas, ou de financement participatif.
Alors, tout ça, de toute façon, ce sont des réponses qui vont se cumuler. Mmh. Il y a déjà des investissements aussi qui se font dans des sociétés coopératives, etc. Donc ça, vous avez des moyens un peu classiques. Probablement qu'il faudra aussi, au niveau européen, qui est un grand fonds d'aide à la transition agroécologique.
Avec une grosse charge sur le territoire français, puisque c'est un des plus ruraux, donc un des plus agricoles d'Europe.
Oui, c'est sûr, puisque c'est le premier producteur européen et qui exporte aussi. D'où d'ailleurs les contradictions entre, évidemment, l'exportation qui rentre dans le poids du commerce extérieur. Donc c'est pour ça que vous avez des résistances aussi très fortes de transformation, et on ne peut pas balayer ça comme ça d'un revers de la main. En même temps, c'est une richesse dans ce territoire d'avoir la terre agricole encore assez importante. C'est très important de la préserver parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a un département tous les 5 ans qui disparaît sous le coup de l'artificialisation des sols, ou c'est un autre problème, le fait qu'il y ait toute une partie des terres qui soit liée à de la culture, soit pour alimenter les animaux. Donc là, c'est tout le problème de l'élevage intensif de bovins, par exemple, ou alors pour les agrocarburants. Tout le sujet aujourd'hui, c'est de trouver l'équilibre dans cette répartition-là des terres, de façon à ce que, au moins, la question de l'autonomie alimentaire des territoires soit préservée.
Vous allez trouver des liens, chers amis, avec toutes les références rapportées par Dominique Picard à nos pages d'émission. Puis je rappelle donc le site du labo de l'ESS, labo-ess.org. Merci Dominique.
Merci.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Je vais quand même apporter quelques précisions sur les références rapportées par Dominique. D'abord, le réseau du RENATA, composé de 80 membres en France et en Belgique, qui offre dans le cadre d'une installation progressive en agriculture des espaces tests, renata.fr. Elle nous a parlé aussi, ou elle vous a parlé, du projet Recherche Action Accessible dans la suite des travaux menés par le réseau des CIVAM. Les CIVAM, les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Ce réseau œuvre depuis 50 ans pour le développement d'une agriculture non surproductrice sur la base des expériences partagées entre producteurs et habitants. Il montre entre autres que la complication et la division du travail agricole ont contribué à éloigner l'agriculture des citoyens. CIVAM.org pour l'adresse du réseau national. Puis autre solution, les coopératives d'installation en agriculture paysanne, les CIAP, les CIAP si on veut. La première du nom a été créée en 2012 dans les Pays de la Loire par la Confédération Paysanne. Elle était pensée pour aider les jeunes non issus du milieu agricole à s'installer. Là aussi, espace test, couveuse d'activités, stage de longue durée. Pour monter son projet CIAP, Tradunion PDL, les Pays de la Loire.fr. Dernière référence pour les ADR, associations d'emploi agricole et rural, majoritairement animées aussi par des membres de la Confédération, dont le but est de propager les savoir-faire et les formations agriculturepaysanne.org. Et Marine vient de nous écrire sur notre page Facebook pour nous annoncer que les APAD, qui sont les associations pour une agriculture durable, organisent du 13, c'est-à-dire très prochainement, au 22 septembre, les journées du patrimoine sol des fermes qui s'ouvrent à vous pour découvrir les savoir-faire. On va rajouter aussi cette référence. Dans le Finistère, on y revient dans un instant.